بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, le samedi, le 22 du mois de l'Qa'da de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 9 mai 2026. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette rencontre hebdomadaire dans laquelle nous étudions le livre de l'unicité de l'imam Mohammed ibn Abd al-Wahhab, revivificateur de la religion de l'islam dans la deuxième moitié du 12e siècle. On s'est rendu au 62e chapitre de ce livre que l'auteur a intitulé باب ما جاء في كثرة الحلف. Donc c'est un chapitre dans lequel nous allons apprendre le jugement de multiplier يعني le jugement de jurer fréquemment. Le jugement de jurer fréquemment. Donc ça, c'est le but principal de ce chapitre, de connaître le jugement de jurer fréquemment et que ceci diminue la foi et diminue l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le cœur du serviteur. Et le fait de jurer, religieusement parlant, c'est d'appuyer une chose en citant le nom d'une personne vénérée, de quelqu'un qui est vénéré, et de le faire avec une formule bien précise qui comporte forcément une des lettres du serment, de l'halif, حروف القسم. حروف القسم الثلاثة: الباء والتاء والواو، وهي من حروف العطف كذلك، لكن الذي يعنينا هنا أنها حروف القسم التي بها يكون القسم. Donc c'est juré en mentionnant le nom, juré sur une chose en mentionnant le nom de quelqu'un qui est vénéré. C'est pour ça que Kuffar Quraysh, quand ils juraient, mentionnaient les noms de leur divinité. Et tu peux entendre des gens aujourd'hui qui vénèrent des mausolées, quand ils jurent sur des choses extrêmement importantes, ils ne vont pas se contenter de mentionner le nom d'Allah, mais ils vont jurer en mentionnant le nom de Sidi Antel et Sidi Antel. Ou le Badawi, ou Keda. Et ceci se fera moyennant une des trois lettres avec les qu'on utilise quand on jure, qui sont le waou, tu dis wallahi, le ba, tu dis billahi, le ta, tu dis tallahi. Donc c'est ça le fait de jurer. Et comme yani jurer, c'est yani dans quand on jure, on utilise le nom où là on s'appuie sur le nom de quelqu'un qui est vénéré, c'est pour ça que ceci ne se doit qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne doit jurer que par Allah subhanahu wa ta'ala, par ses noms et ses attributs. Et on ne doit pas jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Car celui qui jure par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a vu précédemment, celui qui jure par autre que le nom de, par autre que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou ses attributs, il est tombé dans une forme d'associationnisme. Et la règle de base ici, c'est que l'associationnisme est mineur, sauf dans le cas où il va vénérer la chose par laquelle il a juré, il va la vénérer comme on vénère Allah subhanahu wa ta'ala, ou même au-delà de cette vénération. Là, ça devient de l'associationnisme majeur.
Et ça, c'est des cas réels qu'on peut trouver chez certains soufis, certains égarés, extrêmement égarés parmi les soufis, qui peuvent jurer par Allah subhanahu wa ta'ala quand ils ne disent pas la vérité. Mais si tu lui demandes de jurer par le mausolée, il ne va jamais jurer sur un mensonge, car il a plus peur de ce soi-disant allié d'Allah que la peur qu'il a d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un mouchrik, associationnisme majeur qui fait sortir de l'islam. Et aussi ce qui est répandu dans, en France, chez les jeunes, qui jurent par autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils jurent sur la tête de sa mère, ils jurent sur le mushaf. Ça, c'est pas autorisé. Là, qu'une jurée par le Coran, c'est autorisé. Est-ce que vous voyez la différence entre jurer par le Coran et jurer par le mushaf? Naam, qui peut répondre parmi les frères? طيب تفضل يا استاذ عادل تا استاذ يعني اللهم بارك مفروضنا
القران سي لا
نعم المصحف il comporte la parole d'Allah qui est incréée et des créatures, comme l'encre, le papier, la couverture, tout ça c'est des créatures. C'est pour ça qu'on ne jure pas par le mushaf. Lakin on peut jurer par le Coran, car le Coran c'est l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Et étant donné que le fait de jurer a été légiféré pour appuyer une chose, c'est pour ça que le croyant ne jure pas en temps normal, que quand il y a une nécessité. Que quand il y a une nécessité. Et le fait de jurer souvent et fréquemment, ceci indique un manque de vénération d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses noms et ses attributs. C'est pour ça que celui qui jure souvent, en général, c'est quelqu'un dont le tawhid est faible. Amma quelqu'un qui vénère Allah comme il se doit, ou quelqu'un dont la vénération d'Allah est grande dans son cœur, celui-là, il ne va jurer par Allah que sur des affaires d'une grande importance. Il ne va pas jurer par Allah pour vendre un pain, ou là pour vendre un pain au chocolat, ou là une baguette. Ou là. Il va jurer par Allah, subhanahu wa ta'ala, quand il est question d'une chose d'une grande importance. Le Nabi alayhi salam, il jurait sur des fatwas, des avis religieux, pour faire comprendre aux gens que ceci est d'une grande importance. Là qu'il le croyant, il ne jure pas par Allah, il ne jure que par Allah. Et il ne jure par Allah que dans les affaires importantes. Car Allah est l'immense et le grandiose, subhanahu wa ta'ala, et le sublime et le magnifique, subhanahu wa ta'ala. Il ne jure par lui que sur des affaires importantes, quand il est nécessaire de jurer, par exemple devant un juge qui exige de jurer. Quand quelqu'un l'accuse sans présenter de preuves, on demande à l'accusé de jurer, et ainsi il est innocenté. Donc là, il doit jurer, il n'a pas le choix, pour prouver son innocence. Là, si on présente des preuves, il faut qu'il vienne avec des preuves. Jurer ne va pas l'innocenter. Taïb. Et aussi, parce que celui qui jure souvent par Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui jure fréquemment, forcément, il va lui arriver de jurer sur des mensonges. Yani, il ne va pas vérifier à chaque fois, étant donné qu'il jure souvent par Allah subhanahu wa ta'ala. Forcément, cette catégorie de personnes, ça va lui arriver de tomber dans le mensonge et de jurer par Allah sur un mensonge. La question que je vous pose, qu'est-ce qui est plus grave? Et ça, on l'a déjà vu. Qu'est-ce qui est plus grave, de jurer par Allah sur un mensonge ou de jurer par autre qu'Allah sur une vérité? Celui qui veut répondre, lève sa main. Taïb, le dernier rang, le frère avec la casquette.
Non. Jurer par autre qu'Allah en disant la vérité.
Mashallah. Et ça, c'est quoi le jugement de cette parole? Est-ce que c'est un shirk? C'est quoi? C'est un grand péché?
C'est
un shirk, mais qui ne fait pas sortir de l'islam. Car c'est le shirk mineur. Shirk majeur, comme j'ai expliqué avant que tu arrives, c'est quand la grandeur que tu accordes à Allah et la vénération que tu accordes à Allah devient égale à celui par lequel tu as juré, ou supérieure, celle que tu accordes à autre qu'Allah. Et comme j'ai dit, il y en a des gens peuvent se demander, est-ce que ça existe des cas comme ça? Quelqu'un qui vénère Allah, qui vénère autre qu'Allah, plus qu'on vénère Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ça existe. Comme l'exemple de certains soufis qui vénèrent leurs, soi-disant, les alliés, ce qu'ils appellent les alliés d'Allah, ils les vénèrent plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est capable de jurer par autre qu'Allah, par Allah sur un mensonge, mais jamais il va jurer par Sidi Intel sur un mensonge. Car il sait que ça va le toucher pour lui. Il a la certitude qu'il sera touché par un malheur. Donc celui-là, il a plus peur d'autre qu'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est de l'associationnisme majeur. Nasallallahu salam al-afiyah. Et l'auteur, dans ce chapitre, il a mentionné un verset, la parole d'Allah, wahfadhu aymanakum, et quatre ahadith. Dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans surat al-Ma'ida, wahfadhu aymanakum, et préservez vos serments. Préservez vos serments. Donc, ce qui est voulu par ce verset, qu'est-ce qui est voulu, la question que Cheikh Ibn Uthaymeen s'est posée ici. Qu'est-ce qui est voulu par ce verset? Comment on préserve nos serments? Est-ce qu'on les préserve avant le serment, pendant ou après? On les préserve avant, comme on a vu, on ne jure pas fréquemment par Allah subhanahu wa ta'ala. Préserver nos serments, c'est dans le sens, tu ne jures pas par Allah fréquemment, tu jures uniquement quand c'est nécessaire de le faire. Et quand tu jures par Allah et tu dis la vérité. Donc on les préserve avant. Une fois que tu as juré, comment tu préserves ton serment? C'est de le respecter. Tu as juré de faire une chose, tu l'as fait. Sauf quand c'est haram. Tu ne le fais pas et tu t'acquittes d'une expiation. Donc préserver tes serments après avoir juré. Et ou là pendant. Et les préserver après, si jamais tu n'as pas respecté ton serment. Tu deviens redevable d'une expiation. Donc t'acquitter de cette expiation, c'est une façon de préserver le serment que tu n'as pas respecté. Qu'est-ce qui est voulu? Avant, pendant, après, Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, les trois sont voulus ici. Les trois sont voulus dans le verset. On préserve notre serment de sorte à ne jurer que par Allah quand il est nécessaire. Si jamais tu jures, tu es amené à jurer par Allah, alors respecte la chose sur laquelle tu as juré. Et si jamais tu ne le fais pas, alors acquitte-toi de l'expiation. Et ce qui est voulu par les serments ici, ce sont les serments, l'yamin al-ma'qouda, les serments qui sont voulus. Quand tu jures sur une chose, délibérément, et tu vises la chose par laquelle tu as juré. Cela veut dire que ne rentre pas, dans ce cas, ne rentre pas ce qu'on appelle yaminul lagou. Allah Azza wa Jalla dit, la yu'akhidhukum Allahu bil lagou fi aymanikum. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. Allah ne vous tient pas rigueur de vos serments prononcés à la légère, mais ceux que vous prononcez délibérément, يعني, comme la personne, quand tu parles avec un frère, tu lui dis wallah hier a dit wallah inchallah yani, comme ça yani. Juré par Allah, lakin, c'est une façon de parler. Tu n'as pas visé le serment. Ce n'était pas visé. C'est juste une façon de parler. Hadi, ça ne rentre pas ici, mais tu dois t'en éloigner également, car ça peut te donner une mauvaise habitude. Là, qu'Allah dit clairement dans le Coran que on ne prend pas de péché par rapport à Yaminul Lahu. Lakin, ce qui rentre dans le péché, c'est le serment voulu. Tu jures en voulant jurer par Allah. Et non pas une manière de parler. Et plus grave encore que ce serment, le serment qu'on appelle Yaminul Ramous, qui fait plonger celui qui la pratique dans le feu de l'enfer. C'est pour ça que ça s'appelle Ramous. Tarmisu sahibaha finna. Et c'est le serment dont tu te sers pour prendre le droit de ton frère. Tu jures que cette chose t'appartient, alors qu'elle ne t'appartient pas. Donc tu jures sur une chose à venir pour prendre le droit, ce qui revient de droit à ton frère. Ça, c'est encore plus grave. Et ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a cité ou là avant, je viens de penser à un autre serment, une autre yamin, quand tu jures sur une chose passée, en pensant que c'est la vérité. Est-ce que tu prends des péchés si jamais il s'avère que ce n'était pas vrai? Tu dis par Allah, je l'ai posé sur la table, hier. Alors que, alors qu'en réalité, tu ne l'avais pas fait ainsi. Mais tu as oublié. Les hommes de science disent que dans ce cas, tu ne prends pas de péché non plus. Car tu as juré sur ce que tu pensais vrai. Amma, le serment dans lequel on prend le péché, c'est quand on jure sur un mensonge d'une manière délibérée et volontaire. Tu sais que ce n'est pas vrai. Donc j'ai dit, ensuite l'auteur a cité en premier hadith Abi Huraira radiallahu anhu, dans lequel il dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, Al-halifu manfaqatun lis-sil'ati mamhaqatun lil-kasbi. Donc il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, jurer sert à écouler la marchandise, mais gâche les gains. Mais gâche les gains. Ce qu'ils ont traduit ici, c'est ce qui est rapporté effectivement dans les deux authentiques. Manfaqatun lis-sil'ati mamhaqatun lil-kasbi. Ils ont traduit ce qui est rapporté ici. Ils ont dit mamhaqatun lil-kasbi. Mais c'est un gâchis pour les gains. Mais en réalité, ce qui est rapporté dans les deux authentiques, c'est mamhaqatun lil-barakati. Ça gâche la bénédiction. Mais cette riwaya, elle est également authentique. Mais elle n'est pas rapportée dans les deux authentiques. Elle est rapportée dans le musnad de l'imam Ahmad. Et dans d'autres sources de la sunna, mais pas dans les deux authentiques. Dans les deux authentiques, mamhaqatun lil-baraka. Là, qu'il le sens, il est proche. Yani, les gains, c'est la baraka de ces gains. Les gains ne se comptent pas en quantité. mais en bénédiction et en profit. Il y a des gens qui ont des milliards, mais ils ne profitent pas de leur argent, de leur fortune. Et en plus, ils seront jugés par ces richesses qu'ils ont accumulées. Donc il n'y a pas de bien pour eux dans ces choses-là, ni dans le dunya, ni dans l'akhirah. Donc le Nabi dit « Al-Halifu manfaqatul lis-sil'ati ». Ce qui est voulu par le serment ici, c'est le fait de jurer sur le mensonge. Comme ceci est cité explicitement dans une autre riwaya. « Al-Yaminu al-Kadhibatu manfaqatul lis-sil'ati ». Al-Yamin al-Kadhiba. Ce qui est voulu par le serment ici, c'est le serment sur le mensonge. Ça permet effectivement d'écouler la marchandise. Ça permet d'écouler la marchandise. Yani, tu jures ou bien tu vas mentir sur la marchandise en soi-même ou sur sa catégorie. Tu dis ça, c'est des dates de première qualité. Ça, c'est du miel de première qualité. Ce qu'ils appellent le cidre royal. Il y en a qui vendent le cidre royal, tu lui dis, c'est quoi le cidre ? Cidre royal, il ne sait même pas. Oui, mais c'est comme ça qu'ils disent, au SAF. Une appellation commerciale. Comme un jour, une histoire qui m'est arrivée, peut-être c'est bien de le dire, comme ça les gens entendent ce point, comme c'est une expérience personnelle, par rapport au miel qu'ils appellent le miel de l'Habba Sauda. Vous avez certainement entendu le miel de l'Habba Sauda, le miel de la graine de Nigel. Ce miel, je l'ai vendu pendant un moment, et par rapport à cette description, et je l'achetais chez quelqu'un de confiance, quelqu'un qui est respectable, un commerçant à Jeddah, chez lequel la plupart des salafines acheter du miel. Et après quelques années, après des tests au laboratoire, j'ai découvert que dans ce miel, il n'y a pas du tout de graines de nigel. Et que ça n'existe même pas. Il y a quelqu'un qui m'a expliqué que si l'abeille, elle butine dans la graine de nigel, peut-être qu'elle va mourir et elle ne va pas donner du miel. Et après, je suis revenu vers ce vendeur et je lui ai expliqué. Il m'a dit, en réalité, chez nous en Égypte, quand on l'appelle miel de graines de nigel, c'est une appellation commerciale. C'est comme ça qu'il est connu. Je lui ai dit, mais non, on l'a vendu miel de Habba Saouda, c'est pour ça que les gens ils aimaient bien. Donc, ou bien, ceux qui sont honnêtes parmi eux, ils vont le vendre tel qu'il est. Moi, en réalité, c'est un miel de fleurs. Il est noir, comme ça, chez eux. Donc il y en a qui vont le vendre comme ça, miel de fleurs. Et d'autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont lui rajouter de l'huile de la graine de nigel. Une petite quantité pour lui donner le goût de... Et ça, c'est encore pire. La personne qui l'achète, elle pense que c'est du miel qui vient de ces fleurs qui ont donné la graine de nigel. Donc, en résumé, ce miel n'existe pas, malgré qu'il est mondialement connu et très très vendu. Et les gens, étant donné qu'ils connaissent les vertus de l'Habba Saouda, quand ils entendent le miel de l'Habba Saouda, c'est yani, le top. C'est le miel déjà, il a beaucoup de vertus, et en plus c'est un miel de l'Habba Saouda. Là, si tu veux, tu peux prendre n'importe quel bon miel et tu lui rajoutes un peu d'huile de Habba Saouda. Wallahu a'lam. Tayyib. Donc si tu jures sur le produit, sur un mensonge qui concerne le produit en soi-même, tu falsifies carrément le produit, ou là tu changes la nature, ou là la catégorie, ou la description. Tu donnes des descriptions qui ne sont pas précises ou qui sont fausses. Ou le prix. Tu mens sur le prix. Tu dis, je l'ai acheté tel prix. Je gagne seulement ça. Et les gens, quand ils entendent que tu gagnes très peu, ça peut les encourager à acheter le produit. Donc, tout ça rentre dans le mensonge concernant la vente qui va effectivement permettre l'écoulement de ce produit. Tu vas le vendre. Là, quel profit tu vas tirer de ce produit? Tu ne tireras pas de profit ni dans le dunya, ni dans l'akhira. Ni dans l'akhira, c'est clair, l'ana, c'est un péché que tu as commis. C'est un mensonge. C'est une tromperie. C'est abuser de la confiance des gens. Et c'est aussi, tu ne vas pas tirer profit, même pas dans le dunya. Car la baraka de cette transaction sera caduque. Il n'y aura pas de baraka. Le baraka, il n'y aura pas de baraka dans un sens, si on prend l'autre riwaya, il n'y aura pas de gain, un gâchis dans le gain, ou bien d'une manière réelle. Yani Allah, il peut envoyer sur ses biens un feu ou là une catastrophe qui détruit ses biens. Ou en levant et en retirant la bénédiction de cette transaction. Ensuite, il a cité hadith Salman radiallahu anhu, le deuxième hadith, dans lequel il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Thalathatun la yukallimuhumullahu » وَلَا يُزَكِّهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Il a dit trois catégories de personnes. Trois catégories de personnes. Et il y a ces trois personnes-là qui ne s'est pas voulu, trois individus seulement. Trois catégories de personnes à qui Allah ne parlera pas et qu'il ne purifiera pas et qui auront un châtiment douloureux. Le premier, c'est un fornicateur, c'est un vieillard fornicateur. Ushaymetun zanin. Ushaymet, c'est, à la base, c'est Ashmat. Ashmat. L'Ashmat, c'est le vieillard, la personne âgée. La personne âgée. Le vieillard, Ashmat. Et donc là, on lui a fait ce qu'on appelle en langue arabe, tasrir. Tasrir, je ne sais pas comment ils disent en France. Yani, le petit de quelque chose.
Diminutif.
Afwan.
Diminutif.
Diminutif. Barakallahu fik. Donc, et ça, c'est pour le mépriser. Pour le mépriser. Car en langue arabe, on peut le faire pour montrer, pour exprimer de la tendresse et de l'amour pour une chose. Comme tu fais avec ton fils. Et ton fils qui s'appelle Ahmed, tu dis Uhaymid. Tu dis Uhaymid. Ça, c'est pour exprimer ton amour. Et on peut le faire en langue arabe pour mépriser quelque chose ou là quelqu'un. Et c'est le cas ici. C'est par mépris à cette personne âgée, un vieillard très, très avancé dans l'âge, et malgré ça, il tombe dans la fornication. Et on va comprendre pourquoi. Et le deuxième, un pauvre arrogant. Wal'iyadu billah. Oula, afwan, ils ont dit un pauvre orgueilleux. A'ilun mustakbir. Là, c'est ça. C'est un pauvre orgueilleux. Et le troisième, wa rajulun ja'ala Allah bida'atahu. La yashtari illa bi yaminihi wa la yabi'u illa biha. Et c'est celui-là qui est voulu dans ce chapitre. C'est la troisième catégorie de personnes. Celui qui n'achète qu'en jurant et ne vend qu'en jurant par Allah. Ce hadith est un hadith authentique rapporté selon Salman radiallahu anhu. Donc, le premier, c'est un vieillard fornicateur. La fornication, comme vous savez, c'est un des plus graves péchés en islam. La fornication, c'est un des plus graves péchés en islam. Quand Allah voit sa servante ou son serviteur commettre ce péché, Allah, il se met en colère. Ça met Allah, subhanahu wa ta'ala, extrêmement en colère. Allah déteste la fornication. Il y a beaucoup d'ahadiths qui sont rapportés par rapport à ça. Lakin, donc la fornication est un grave péché pour tout le monde. Mais si jamais il y a un jeune qui a une grande envie et qui ne trouve pas le moyen de se marier et qui faiblit et tombe dans ce péché. Et en général, il va le regretter. Il va se repentir. Il va s'en vouloir à vie d'avoir commis ce crime abominable et grave, extrêmement grave, qui aurait pu avoir des conséquences encore plus graves. Si jamais cette femme, elle tombe enceinte, l'enfant sera un enfant d'adultère à vie. Il n'y a pas moyen de réparer les conséquences de ce péché. Si jamais il y a un enfant qui naît, qui naisse d'une relation non légiférée, ça sera à vie un enfant d'adultère qui sera attribué uniquement à sa mère. C'est un enfant qui n'a pas de père, car le père biologique, le fornicateur, n'a rien. Il est attribué uniquement à sa mère. Et si jamais c'est une fille, elle doit se voiler devant cet homme quand elle deviendra pubère. Car ce n'est pas son père religieusement parlant, c'est un père biologique seulement. Lakin, cette naissance n'a pas eu lieu dans un mariage légiféré. Donc c'est tellement grave pour tout le monde. Lakin, imaginez une personne très âgée, un vieux, qui n'a plus d'envie et qui continue à commettre ce péché. Ça veut dire que cette personne, ce n'est pas seulement par faiblesse qu'elle est tombée dans le péché. Car le croyant, en général, quand il commet le péché, c'est par faiblesse. C'est pour ça que tu trouves qu'il le regrette. Lakin, cette personne, elle a commis le péché par amour du péché. C'est une perversité qu'elle a dans l'âme. Et ça, en général, tu ne le trouves pas chez le croyant. Le deuxième, c'est la même chose. Si vous avez compris ce point, c'est la même chose pour le deuxième. Un pauvre orgueilleux. Si t'es milliardaire et t'es orgueilleux, tu roules sur l'or en limousine, ça peut se comprendre. Lakin, toi, tu n'as même pas de quoi couvrir ta aura correctement. Et t'es malgré cela orgueilleux. Ça indique l'amour du péché. C'est quelqu'un qui a cette caractéristique en lui-même, la caractéristique de l'orgueil. Ah, s'il devient riche, là, comment il va faire? Ah, ça veut dire qu'il a l'amour du péché. Il a ce péché en lui-même. Et comme vous savez, l'orgueil, c'est une caractéristique spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne convient pas à la créature. Et le troisième, c'est celui qui abuse de la confiance d'Allah et abuse de l'amour qu'ils ont pour Allah subhanahu wa ta'ala et le respect qu'ils ont pour les serments qui sont prononcés en son nom afin d'écouler ses marchandises. Et Ali, il n'achète qu'en vendant, il dit « Oh Allah, j'ai pas d'argent » alors qu'il a les poches remplies. « Oh Allah, j'ai que ça » ou là, quand il vend, pareil. Wallah, je l'ai acheté comme ça. Je ne me fais même pas de bénéfice. Alors que c'est un menteur. Hada, ça, il fait partie de ces trois catégories de gens à qui Allah subhanahu wa ta'ala n'adressera même pas la parole et ne les regardera pas. Et qui auront un châtiment douloureux si jamais ils ne se repentent pas pendant leur vivant. Ça veut dire qu'ils sont menacés. Lakin, sachez que ça reste des grands péchés. Certes, des grands péchés très graves, mais le jugement, c'est le même pour tous les grands péchés. C'est sous la volonté d'Allah. S'il veut, il pardonne, et s'il veut, il châtie proportionnellement à la gravité du péché, et il fait rentrer le monothéiste au paradis. Donc ça ne fait pas sortir de l'islam. Ce qui fait sortir de l'islam, c'est la mécréance, la grande mécréance, et le grand associationnisme d'une manière générale. ou de démentir ce que Allah dit. Anwa' al-kufr, sab'a. Il cite sept catégories. Ou l'hypocrisie, la mécréance de la grande hypocrisie. Celui qui montre l'islam et qui cache la mécréance. Donc celui qui tombe dans ce péché, qui jure pour écouler ses marchandises ou pour faire des bonnes affaires lors de ses achats, il tombe dans quatre choses qui sont graves. La première, c'est de prendre à la légère les serments au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il lui a été ordonné de préserver ses serments, comme dans le verset. Il tombe dans le péché du mensonge. Vous savez, le croyant, il ne ment pas. Nabi alayhi salam a été interrogé. Est-ce que le croyant peut faire tel grand péché? Il disait oui. Est-ce qu'il peut faire tel grand péché? Il disait oui. Mais quand on lui a dit, est-ce que le croyant ment? Il a dit non. C'est pour ça, si on doit éduquer nos enfants sur une valeur seule et unique dans le cadre des bonnes moralités, c'est bien de toujours dire la vérité, en toutes circonstances, quelles que soient les conséquences, et les aider dans ce sens-là. Un enfant qui dit toujours la vérité, ou un homme qui dit toujours la vérité, il reviendra toujours vers Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement à celui qui prend la facilité du mensonge. Hada, il ne va pas se repentir. Il n'a pas besoin de se repentir. Amma, celui qui dit toujours la vérité, il va éviter de faire certaines choses, car si jamais il les fait, il va devoir les dire. Et lui, il ne veut pas s'afficher devant ses parents. Il ne veut pas qu'on ait une mauvaise image de lui. Donc ça va l'empêcher finalement de commettre le péché. S'il prend l'habitude de toujours dire la vérité. Pour ça, Nabi Asallam a dit non, il ne ment pas. Là, s'il ment, est-ce qu'il sort de l'islam? Bien évidemment que non. C'est pour ça, le sidq, ça vient au summum des bonnes moralités. Celui qui est véridique, il sera pur monothéiste. Car ça, c'est la vérité, la plus grande des vérités. La vérité, c'est quoi? C'est que tes propos, tes paroles soient en accord avec la réalité. Si tu dis « La ilaha illallah », ça c'est la plus grande réalité. Si tu n'as pas ça, tu es le plus grand menteur. Le mouchrik, c'est un grand menteur. Il associe à Allah, il attribue à Allah ce qui ne convient pas. Il lui attribue des associés. Le mouchrik. Il fait de certaines de ses créatures des divinités. Alors que ce sont ses créatures. Ça c'est le mouchrik. Al-Munafiq également. C'est un menteur. Amma le croyant, il dit toujours la vérité. Et si il faiblit, il ment, il se repent. Lakin, il prend cette habitude de toujours dire la vérité, quoi qu'il arrive. Wallahi, quand bien même Shaitan essaie de te faire croire que le mensonge est une solution, il te trompe. Et tu te fais leurrer. C'est pas vrai. Le Nabi alayhi salam, regardez ce hadith. Si on ne connaît que ce hadith par rapport à sidq, on l'adopterait dans notre vie. Comme principe dans la vie. Le Nabi alayhi salam dit, Inna sidqa yahdi ila al-birr. La véracité guide vers le bien. Tout bien. Al-birr, ça englobe tout bien qui existe. Inna sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-janna. Et le fait d'être dans le bien, ça c'est la voie du paradis. Et l'homme ne cesse de dire la vérité et d'être véridique jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme un homme véridique. Allahu Akbar. Vous imaginez? Arrivé à ce degré auprès d'Allah, il est inscrit auprès d'Allah dans le registre des hommes véridiques, à la tête desquels il y a le plus grand véridique de cette communauté, Abu Bakr Siddiq. C'est pour ça d'ailleurs il s'appelle Siddiq, son surnom c'est Siddiq. On lui dit, et ça il faut vraiment se projeter à l'époque. C'est pas comme aujourd'hui, tu connais des fusils, des missiles, des avions de chasse. c'est plus facile de concevoir cette notion. Lakin, imagine à l'époque, les gens, ils n'avaient que des dromadaires et des chameaux. Et on lui dit, ton prophète a fait un voyage en une seule nuit, et même pas la totalité de la nuit, une partie de la nuit seulement. De la Mecque vers la Palestine et de la Palestine vers le 7e ciel. Il leur a dit quoi? Est-ce qu'il l'a dit? Ils ont dit oui, il l'a dit. C'est ce qu'il dit. Il leur a dit, alors il a dit la vérité. Ils disent que depuis ce jour-là, on l'a surnommé As-Siddiq. Et après, il leur a donné un argument rationnel. Ne croyez pas qu'on n'a pas des arguments rationnels. C'est les athées qui n'ont pas les arguments rationnels. Il leur a dit, je le crois, en quelque chose qui est plus grande que ça. Il reçoit la révélation matin et soir du ciel. Et je ne vais pas le croire sur un petit voyage comme ça. Qu'est-ce qui est plus grand? C'est de recevoir la révélation de la part du Créateur. Subhanahu wa ta'ala. Allah. Et je ne vais pas le croire sur un détail comme ça. Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu. Et la troisième chose, c'est qu'il va manger l'argent des autres sans droit. Et la quatrième, c'est qu'il tombe dans le serment qu'on appelle Yamin Ramous, car il va jurer pour prendre ce qui revient de droit à son frère. Le troisième hadith qu'il a mentionné, c'est hadith Imran ibn Hussein radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, khayru ummati. Donc c'est hadith Imran ibn Hussein radiyallahu anhu, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les meilleurs de ma communauté sont les gens de ma génération. Yani, la génération du prophète alayhi wa sallam, qui est la génération des compagnons. Puis ceux qui les suivent, la deuxième génération, de ceux qui ont suivi les compagnons, c'est-à-dire tabi'in, ceux qui ont vu les compagnons, mais qui n'ont pas vu le prophète. On appelle cette génération la génération de tabi'in. Puis la génération qui suit, qui est la génération de tabi'in. Ceux qui ont vu des tabi'in, mais qui n'ont pas vu de compagnons, ni le prophète. Ça, c'est les trois meilleures générations de cette communauté. Et Imran radiyallahu anhu dit, je ne sais plus s'il a parlé de deux ou de trois générations après la sienne. Donc il y a un doute de la part du rapporteur de ce hadith, du compagnon. Mais ce hadith a été rapporté de d'autres compagnons et de d'autres narrations dans lesquelles les trois générations sont mentionnées sans doute. Ça veut dire que Nabi a mentionné effectivement trois générations. Lakin, regardez la précision du compagnon, la minutie des compagnons. Vous savez, il y a des compagnons qui s'abstenaient de rapporter les hadiths. Il y a d'autres qui sont capables de le faire. Lui, il ne prend pas le risque. Et ceux qui le faisaient, ils le faisaient avec une grande minutie. Il doute d'un point, il le dit. Ou il s'abstient complètement de rapporter le hadith. Mais Allah a préservé cette religion. Il ne va pas y avoir un hadith dont on a besoin dans notre religion qui sera oublié. Donc il a dit, ensuite il a dit, puis vous succéderont des gens qui témoignent et à qui on ne demande pas de témoigner. C'est-à-dire après ces trois meilleures générations, il viendra des générations par la suite qui vont témoigner, c'est-à-dire ils vont témoigner sur le mensonge, le faux témoignage. Ils vont témoigner alors qu'on ne leur demande pas de témoigner, parce que ce n'est pas des gens de confiance. Les gens, ils ne reviennent pas vers eux pour avoir leur témoignage, mais eux, ils témoignent d'eux-mêmes sur le mensonge. Et ça, c'est à cause de la faiblesse de leur religion. Viendra des gens, ça c'est Nabi Assalam l'a cité dans le contexte du blâme. Ceux qui se précipitent à témoigner sans s'assurer de la véracité de leur témoignage. Et en plus, tellement ils sont connus par ça, les gens, ils ne reviennent pas pour eux pour avoir leur témoignage. Mais eux, ils vont quand même faire ce témoignage sans s'assurer de la véracité. Qui trahissent, parmi leur description également, qui trahissent et ne sont pas dignes de confiance. Ils vont trahir et ils ne seront pas dignes de confiance. C'est-à-dire, ils vont trahir les dépôts en garantie, ils vont trahir leurs pactes et leurs engagements. Et les gens ne leur font pas confiance à cause de cette trahison qui est connue d'eux. Cette trahison qui est connue d'eux et ce manque de respect de leurs promesses, de leurs engagements, et ainsi de suite. وَيَنْذِرُونَ وَلَا يُوفُونَ et qui vont prononcer des vœux, mais qui ne vont jamais respecter. Ils ne vont jamais les accomplir. Donc ils font des vœux. Le vœu, comme vous savez, on a déjà fait plus d'un chapitre sur le vœu. Le vœu, c'est quand tu t'imposes une chose qu'Allah ne t'a pas rendue obligatoire. Tu dis, je vais jeûner pour Allah 3 jours. Que tu le fasses en demandant une chose ou que tu le fasses comme ça, d'une manière absolue. Tu peux le faire en disant, je jeûnerai pour Allah 3 jours si Allah guérit ma mère de cette maladie. Ça, c'est un vœu. Il est détestable. Il vaut mieux pas le faire. Lakin, si tu le fais, ça devient une obligation de le respecter. Car le vœu, c'est un moyen de sortir quelque chose de l'avare. Tu jeûnes pour Allah seulement s'il guérit ta mère. Invoque Allah pour qu'il guérisse ta mère et jeûne pour lui sans t'imposer quoi que ce soit. Et fais des bonnes actions pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi tu veux comme ça en contrepartie? Lakin, si tu le fais, et pourquoi tu le fais quand on t'exige rien en contrepartie? Tu ne le fais pas non plus car tu peux ne pas le respecter. Et ainsi tu deviens sujet de blâme car tu n'as pas respecté un vœu. Pour ça, il vaut mieux l'éviter. Il est détestable à la base. Lakin, si tu le fais, ça devient une obligation de le respecter. Ces gens-là, ils feront des vœux qu'ils ne vont jamais accomplir. Ils font des vœux qu'ils ne respectent pas à cause de la faiblesse de leur religion et de leur foi. Et en dernier, il a dit, l'embonpoint apparaîtra chez eux. يظهر فيهم السمن يعني ils vont avoir du surpoids يعني l'obésité apparaîtra chez eux et ce qui est voulu par l'obésité ici c'est l'obésité qui indique un attachement au bien de ce bas monde. Ils mangent tellement et en général c'est des gens qui vont parler que de ce qu'ils mangent. Le croyant, il ne parle pas de ce qu'il mange. Salaf, il détestait l'homme qui parle de ce qu'il mange ou là des choses qui concernent les femmes. Un homme ne parle pas de ça. Un homme, il a des choses beaucoup plus élevées. Salaf, il détestait l'homme qui parle de sa nourriture. On a mangé une pizza, on a mangé un grec, c'était terrible, c'était affreux. Le croyant, il ne parle pas de ces choses-là. L'anna, ce n'est pas des objectifs. Il mange pour mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut prendre plaisir dans un plat, là qu'il ne va pas raconter ça. Sauf s'il le dit à sa femme. Malheureusement, on ne le dit pas. À nos femmes. À sa femme, il lui dit, mashallah, c'était bon. Même si c'était immangeable. C'était bon, mashallah, hadiyad, pour l'encourager. Pour la récompenser pour ses efforts. L'anna, elle a mis plusieurs heures à préparer ce plat. Même si elle l'a raté, l'intention est bonne. Lakin, l'homme, il ne parle pas de ça, d'une manière générale, sauf quand il y a des occasions. Est-ce que vous trouvez dans ce qui est rapporté de Nabi alayhi salam, une seule fois, il va parler de la nourriture sans qu'il y ait un contexte qui l'exige? Yani, ça n'existe pas dans ce qui est rapporté de Nabi. ni chez les compagnons. Lakin, ça peut arriver dans des circonstances. Par exemple, ils ont connu une faim de plusieurs jours et après ils ont mangé. Lakin, en temps normal, un homme ne parle pas de ce qu'il mange, ni de ce qui est en lien avec les femmes. Donc, l'obésité qui est voulue aussi, qui est blâmée, c'est celle qui indique que cette personne est très attachée à Dunia et qu'elle suit ses envies. Il n'est que derrière les plats et les repas et les sandwichs. Et en général, ces gens-là se rendent dans l'insouciance par rapport à l'au-delà. Contrairement au surpoids qui peut être contre la volonté de la personne. Vous savez, il y a des gens, ils prennent du poids pas parce qu'ils mangent plus que les autres. Leur morphologie est ainsi. C'est pas parce qu'ils mangent. Peut-être il y a des gens qui mangent beaucoup plus qu'eux, là, qui ça apparaît pas. Donc ça, c'est pas blâmé. Car c'est pas quelque chose qui est choisi. Lakin, comme ce qui arrive par exemple à certains étudiants en sciences, il vient de son pays, il est tout maigre, mashallah. Et après, il commence à aller dans les restaurants, les pizzas, comme a dit une fois Cheikh Abdallah al-Bukhari. Il a parlé de ce phénomène. Et lui, il a parlé de ce phénomène dans le sens où cette personne, quand tu lui dis « Pourquoi tu n'assistes pas au cours des savants ?» il te dit « J'ai pas le temps. » Et après, tu le trouves dans les pizzas, dans les sandwicheries, dans... Et Allah Mabarik, en 1-2 ans, il prend beaucoup de poids. Si Allah nous a préservé de ça, il faut le louer. Et savoir que c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Le dernier hadith qu'il a cité, c'est hadith Ibn Mas'ud. Il dit du prophète alayhi salam dans le même sens. Dans le même sens. Khayrun nasi qarni. Les meilleurs des gens, ce sont ceux de ma génération. Puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent, puis viendront des gens dont le témoignage de l'un d'entre eux précède le serment. Et le serment précède le témoignage. Ce qui est voulu par ce hadith, c'est que c'est des gens dont la foi est tellement faible qu'ils ne se soucient pas. Est-ce qu'il va jurer d'abord et après présenter son témoignage ou présenter son témoignage et après il jure? Yani, il prend les choses à la légère. Il n'a pas la vénération d'Allah subhanahu wa ta'ala et la crainte d'Allah qui va le pousser à vérifier et à s'assurer que ce qu'il dit c'est prouvé et c'est la vérité. Donc, il ne se soucie pas, est-ce qu'il jure d'abord et après il donne son témoignage, ou là il donne le témoignage, après il jure. Il y en a des gens qui prennent ces choses-là à la légère. C'est pour ça qu'il a été rapporté de Ibrahim al-Nakhai, rahimahullah, il a dit « Kanu yadribunana » Il a dit, il nous frappait. Donc Ibrahim al-Nakhai, il parle de Tabi'in et de Sahaba. Il a dit, il nous frappait, il y en a les enfants. Il frappait les enfants pour les serments et les engagements alors que nous étions petits. Donc quand il voyait un enfant qui jure beaucoup ou là qui jure sur les mensonges, il l'éduquait. Et ça pouvait arriver jusqu'à le corriger de cette manière-là. Avec les règles connues dans la religion qu'on n'a pas le temps de détailler maintenant. Yani, c'est pas frapper avec lui arracher le bras. Yani, avec un siwak ou la haja pour juste lui montrer que son acte est grave. C'est ça le but. Le but de frapper, c'est envoyer un message en dernier recours. Bien évidemment, il y a plusieurs étapes qui vont précéder. On va conseiller, on va rappeler les textes, Si on voit qu'au bout de plusieurs années, l'enfant il continue à faire ça, peut-être que cet enfant a besoin d'une autre méthode pour prendre connaissance que son acte est grave. Et ça, ça peut être en prenant un petit bout de siwak, tu lui fais comme ça. Tac, tac. Ou là, avec le doigt. Pas avec qui connaît bien le Maghreb, Zerwata. Les Saoudiens, ils connaissent ce nom. Il l'a frappé avec Zerwata. C'est جيجيان ولا ما عرفت سميتهم هذاك عندهم في فرنسا، احنا في المغرب كيسميهم يعني لا بوليس سبيسيال، هذوك اللي عندهم هذاك بحالك ولا هذيك لا بار تيليسكوبيك ولا شحال. اما ان انفون كونت اون دو لو كوريجي ديجا ان انفون النبي عليه السلام الى دي اون لو فرا با افون 10 ans et que pour salat. Alors avant pour autre chose théoriquement ça doit être évité. Donc ça peut arriver jusqu'à les corriger de cette manière quand ils juraient sur le mensonge. Ce qui est voulu par shahada, c'est le faux témoignage. Enfin, j'ai pensé au à jurer. Là qui nous il parle de shahada. Ce qui est voulu par hada, c'est le faux témoignage. Le faux témoignage. Il les corrigeait sur ça. Voilà. Également, quand il donnait des engagements, même enfant, un enfant s'engage à faire une chose, il ne la respecte pas, il pouvait le corriger pour qu'il apprenne l'importance de respecter ses engagements et de donner le témoignage quand il est sûr que c'est la vérité et quand c'est nécessaire. C'est pour ça qu'il est rapporté dans un autre hadith, le Nabi a dit « Les meilleurs des témoins sont ceux qui présentent leur témoignage avant qu'on leur demande. » Et ça, c'est parmi les hadiths que les savants mentionnent en général quand on parle de ta'arub. Comme si le sens, les sens s'opposent. Là, tout à l'heure, on a vu, c'est blâmer les gens qui se précipitent à faire des témoignages. Et ici, ils sont loués. Comment concilier les deux? Il y a des savants comme l'imam Ibn Abdul Barr, il a dit, on prend en compte hadith, le premier hadith seulement. D'autres ont dit, on prend le deuxième hadith. Et là qu'il l'a vu juste, c'est que les deux hadiths sont authentiques. Et on peut les concilier de cette manière qui a été rapportée de l'imam Malik et de beaucoup de grands savants. Ils ont dit, ça c'est ceux qui se hâtent à présenter leur témoignage quand c'est le seul moyen de préserver les droits d'autrui. Par exemple, tu sais que quelqu'un a un droit, et si toi tu témoignes pas, il n'aura pas son droit. Alors se hâter à présenter ton témoignage dans ce cas-là est quelque chose de demandé, de louable. Lakin sinon, il faut faire attention aux témoignages et ne les donner que quand on est sûr que c'est la vérité. Comme Allah Azza wa Jalla dit, « Illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun » Sauf ceux qui ont témoigné avec la vérité et en connaissance de cause, sciemment. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وإن شاء الله à notre prochaine rencontre et c'est également l'heure de salat. الله المستعان. الله يحفظكم يا إخوة بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. quatrième fois de suite يا Steven.
الله المستعان. Faut qu'on commence un petit peu plus tôt.
Inch'Allah, comme la facilite.
Hayyakumullah, salam alaikum.